Casga, le magazine des sciences et des techniques, avec Christian Sauty et Jean-Yves Casga.
Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de Microméga.
Dans les prochaines secondes, nous allons nous intéresser à une étude du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Une étude qui prouve que les scientifiques qui communiquent, ceux qui vulgarisent leurs travaux auprès des médias, sur RFI notamment, et dans Microméga notamment, ne sont pas moins bons, eux, que les autres, au niveau des publications, et qu'ils ne pâtissent pas, sur le plan de leur promotion à l'intérieur du CNRS, de cet investissement temps.
Ainsi donc, les chercheurs ouverts sur la société, les chercheurs communicants semblent être aussi, sinon plus actifs que les autres académiquement. C'est ce qui ressort d'une étude menée au sein du CNRS et rendue publique cette semaine. Pablo Jensen, bonjour.
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 Pablo Jensen, vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et cette étude publiée cette semaine a été menée par une équipe pluridisciplinaire que vous avez dirigée. Quel a été le point de départ de cette étude? Pourquoi faire une étude sur soi-même en quelque sorte?
Oui, c'est vrai, on pourrait dire qu'on se regarde un peu le nombril, mais en fait, cette étude n'avait jamais été faite. Une telle étude pour savoir qui vulgarisait au sein des institutions scientifiques. Au niveau mondial, en fait, on ne savait pas qui vulgarise, qui a des contrats avec les industriels ou avec des partenaires publics, qui enseigne au sein des chercheurs. Et bon, le CNRS, qui est le seul organisme, en fait, au niveau mondial à rassembler autant de chercheurs de disciplines différentes et à centraliser les informations, nous permettait d'avoir, pour la première fois, une vue vraiment d'ensemble, en fait, de ces chercheurs qui communiquent, qui participent à votre émission, qui écrivent des livres, qui font des conférences, parce que sur ces thématiques-là, en fait, les chercheurs ne sont pas très scientifiques en général. Ils connaissent quelques cas particuliers et puis ils généralisent suivant ce qui leur semble le plus, disons, correspondre à leurs idées préconçues. Et donc, on entend souvent dans la communauté des chercheurs que ceux qui communiquent, c'est pour se faire mousser, mais qu'en gros, ils savent plus faire de science et donc ils vont faire de la vulgarisation. Et donc, on a voulu avoir une image un peu statistique et donc un peu rigoureuse et scientifique de ce qu'il en était vraiment.
Alors, est-ce que réellement ceux qui vulgarisent sont tout aussi actifs que les autres? Est-ce que réellement ceux qui vulgarisent ne sont pas pénalisés dans leur promotion, d'après vos travaux?
Alors, voilà, on a fait une étude sur à peu près 4000 chercheurs du CNRS de toutes les disciplines. Donc, vous voyez, là, on a vraiment une bonne image globale de l'organisme. Et on voit que c'est l'image contraire qui sort, en fait. C'est-à-dire que les gens qui communiquent, qui participent à des émissions de vulgarisation, qui écrivent des articles, eh bien, ce sont en gros les chercheurs actifs en général. Ils publient plus que la moyenne des chercheurs et leurs articles ont plus d'impact, c'est-à-dire ce sont des meilleurs articles, entre guillemets, pour aller vite. Et donc c'est plutôt une image, voilà, le chercheur qui serait renfermé dans sa tour d'ivoire, eh bien en fait il n'est pas très bon. C'est plutôt celui qui sort, qui parle de ses résultats, qui crée un réseau en fait. Et ce réseau-là, il se crée aussi bien auprès de ses pairs, de ses scientifiques via les publications, qu'en participant à des conférences entre collègues, mais aussi en allant à l'extérieur et en transmettant son savoir et en le discutant sur la place publique. En fait, une attitude ouverte comme celle-là est plus créatrice de bonne science qu'une attitude renfermée. Et les grands scientifiques, en fait, à Pasteur, Einstein, enfin, tous ceux-là ont tous eu d'une activité de vulgarisation et de diffusion des connaissances énormes. Et je pense que ça va vraiment avec. Si on veut bien comprendre ce qu'on fait, il faut savoir l'expliquer à des profanes, comme on dit. Et c'est vraiment cohérent, en fait.
Pablo Jensen, on connaît tous des cas de chercheurs qui, pour avoir beaucoup parlé sur les ondes, ont quand même été un peu pénalisés, soit qu'on leur ait retiré des bourses de doctorant. Il y a eu quand même des cas où c'était pas aussi rose que ce que décrit votre rapport.
Non, tout à fait. C'est bien ce que j'ai dit dès le départ. On a voulu avoir un tableau statistique. C'est une image un peu scientifique, effectivement, d'avoir une image globale. Donc après, effectivement, on connaît tous des cas particuliers où des personnes ont été pénalisées. Peut-être que le plus célèbre d'entre eux n'est pas français, mais c'est Carl Sagan. Vous savez, celui qui a fait toute la série de Cosmos, etc. L'astrophysicien des États-Unis. Eh bien, lui, en fait, on lui a refusé l'entrée à l'Académie des sciences. Et en gros, ce qu'on a su, disons, d'après les comptes rendus des réunions de l'Académie, c'est qu'en gros, il faisait trop de vulgarisation, il passait trop à la télé, que ça correspondait pas à l'image du sérieux scientifique. Donc, il existe des cas, effectivement, disons, de frilosité de la communauté scientifique vis-à-vis des vulgarisateurs. Je pense que c'est en train de changer quand même, parce que la communauté dans son ensemble, si elle ne fait pas beaucoup de vulgarisation, elle reconnaît que c'est quelque chose d'important. Les physiciens, parce que le nombre d'étudiants décroît, les biologistes, à cause des OGM, on veut montrer que c'est bien, enfin, disons, ils veulent transmettre cette image-là. Disons, on se rend compte que les liens avec la société sont cruciaux et que la science a besoin de la société comme soutien, puisque c'est elle qui la finance.
Mais Pablo Janssen, puisque vous citiez vous-même Carl Sagan, c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est pas forcément la discipline, c'est aussi le sujet abordé. Parce qu'en fait, Carl Sagan, s'il a été un petit peu critiqué, c'est parce qu'il s'intéressait beaucoup à la vie extraterrestre avant tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'exobiologie, c'est un sujet d'étude. Mais Carl Sagan, c'était 20 ans avant tout le monde. Et qu'il avait sorti sa fameuse phrase « L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence », en parlant des extraterrestres. Alors, il avait peut-être raison trop tôt, c'était une discipline qui allait naître.
Oui, ça, c'est les exemples, disons, de gens qui ont raison trop tôt ne manquent pas et qui sont pénalisés pour ça, évidemment, en science et ailleurs, d'ailleurs. Hein, c'est pas seulement propre à la science. Mais je pense qu'il y a quand même un changement d'attitude. Moi, je ressens ça, en tout cas, au sein des chercheurs, une attitude quand même plus positive, globalement, vis-à-vis des contacts avec la société en général. Quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation il y a une vingtaine d'années maintenant, on me disait, ouh là là, surtout, il faut pas marquer ça dans ton rapport d'activité CNRS parce que ça va être mal vu et en gros, on va dire, bah, tu fais que ça. Et depuis une dizaine d'années, les directeurs, au contraire, les directeurs de laboratoire cherchent les gens qui font de la vulgarisation parce que ça fait partie des missions des chercheurs officiellement, hein, c'est vraiment une des tâches des chercheurs, mais plus globalement, dans la culture des chercheurs, je crois que c'est quand même quelque chose qui a changé, qui a évolué, donc Carl Sagan aurait peut-être plus de chance aujourd'hui, en tout cas pour son activité de vulgarisation. En ce qui concerne des activités un peu plus en marge de la science officielle, ça c'est une autre affaire.
Pablo Janssen, la chose curieuse, c'est que cette étude concerne donc les chercheurs français d'une manière générale, qu'elle a été menée par le CNRS, on est en France, et qu'elle est publiée dans une revue anglo-saxonne, Science and Public Policy. Curieux, non?
Ouais, ça, c'est le paradoxe de toute la science, hormis quelques sciences humaines. Je pense que les enseignements de cette étude-là sont internationaux, puisque les chercheurs, vous savez, on vit quand même dans un monde assez international. Cette publication le prouve et je pense que ça peut intéresser bien au-delà du public francophone. C'est pour ça qu'on a voulu la publier dans une revue, disons, de circulation mondiale pour pouvoir toucher le plus de monde. C'est ce que tous les chercheurs font. Après, c'est de bonne guerre. Hein. Il faut, voilà, mais on fait aussi de la vulgarisation sur Radio France.
Est-ce que, Pablo Janssen, pour finir, est-ce que vous avez déjà eu un retour du CNRS sur votre publication qui est toute récente, hein?
Non, j'ai pas encore eu de retour. Enfin, le premier retour, si on peut dire, c'est que le CNRS a voulu faire un communiqué de presse. Donc, en gros, il a adoubé quand même cet article-là d'une certaine manière. Et voilà, ça traduit aussi une certaine vision de ce que, voilà, la communication et la vulgarisation, c'est quelque chose de bien. Donc, voilà, on peut avoir un retour indirect comme ça.
Pablo Janssen, merci.